Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour et merci à tous les quatre de nous recevoir à la salle Gabili. On se rencontre aujourd'hui pour parler de Dreamers, qui se jouera en avant-première au TNB les 26, 28 et 29 juin prochains, mais qu'on retrouvera également du 18 au 27 novembre, toujours au TNB. Pascal Rambert a pris le temps de la rencontre avec vous pour écrire Dreamers, c'est-à-dire qu'il a appris à vous connaître au maximum, jusque dans votre inconscient, en vous interrogeant sur vos rêves. Pouvez-vous m'expliquer le processus d'écriture et quels ont été vos ressentis à chacune et à chacun face à cette façon de travailler ?
Alors, le processus a été déjà de se rencontrer une première fois, et Pascal nous a tout de suite demandé de parler un peu de nous, avec nos mots, notre histoire, ce dont on avait envie de donner un peu, quoi. Une sorte de généalogie de notre vie. Et ça, ça a été une rencontre qui a duré quand même quelques jours, et suite à ça, il nous a demandé d'enregistrer nos rêves. C'est-à-dire, quand on se réveille, qu'on se souvient d'un rêve, on se réveille et on le raconte ou on l'écrit. On essaie de garder une trace de ça, pour ensuite, un jour, je sais pas, ça a mis un an et demi, tout ça. Et pour ensuite faire une sorte de très grand tour de table, où on transmet ses rêves, on parle de ses rêves, on les fait écouter, on les lit, on essaie de redonner la trace de ses rêves, plus un texte qui nous raconte qu'on écrit sur la première rencontre qu'on a eue. On a parlé de nous à haute voix et on a essayé de retranscrire ça ou d'écrire totalement autre chose. Les rencontres étaient très espacées. Donc ça s'est fait sur 3 ans. On ressentit par rapport à tout ça. Moi, j'ai un rapport à mes rêves très intense. Je me souviens de tous mes rêves avec énormément de détails et c'est vraiment... je vis une autre vie dans mes rêves. Et du coup, c'était très intense de les retranscrire et même de les partager parce que ça faisait beaucoup, beaucoup pour tout le monde. Et ça m'a... enfin, je sais pas, c'était comme prendre conscience d'un monde qui nous habite, qui est notre imaginaire, qui est tout ce qu'on vit dans notre vie. Et c'est comme ça se retranscrit en images ensuite, visuellement même, parce que quand on dort, c'est très visuel, c'est beaucoup d'images. Et c'est comment petit à petit, à force de les écrire, ces rêves, à force de vraiment en prendre conscience, il y a une histoire qui se raconte et qui est la nôtre, mais qui nous échappe complètement. Ça a été limite beaucoup plus simple de raconter ces rêves qui m'échappaient que de raconter ma vie, par exemple. Et après, 3 ans après, c'est plus simple aussi de raconter son histoire, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter mes rêves. J'aime beaucoup ne pas comprendre pourquoi d'un coup en moi surgit des peluches, des catamarans. Enfin, voilà, ça me plaît en fait de rencontrer un imaginaire aussi absurde et surtout en fait de pouvoir le nommer au petit à petit, quoi.
Moi, à propos de la naissance de l'écriture de ce texte, je dirais que ce qui m'a surpris, c'était la confiance totale que j'avais en ce projet. Confiance dans les différents sens du terme, c'est-à-dire, évidemment, je fais complètement confiance à Pascal et la matière, enfin, ce qu'il va en faire. Ce qui fait que, bah, c'est vrai, raconter ses rêves, c'est pas forcément simple, parce qu'on a bien conscience qu'il y a énormément de choses qui nous échappent. Mais avoir confiance en quelqu'un qui va en faire une matière textuelle, déjà ça c'est hyper agréable parce qu'on peut vraiment être au travail. Et puis ensuite c'est la confiance aussi de comment lui il va en faire quelque chose derrière qui va tout autant m'échapper. Je lui dis des choses qui m'échappent, il en fait quelque chose qui m'échappera. Donc tout ça devient extrêmement cohérent. Et c'est vrai que d'avoir pu écrire beaucoup, lui transmettre énormément de matière écrite, la chose nous échappe mais on est dedans. Aussi, je sais pas comment dire. On n'est pas en dehors de ce qui se passe, on n'est pas spectateur de ce qui se passe. Donc après, quand on découvre le texte, on voit bien qu'il y a une chimie qui a transformé ça. Mais c'est pas la chimie seulement d'un seul cerveau, c'est la chimie de quelqu'un qui sait transformer toute cette matière en texte. Mais c'est la chimie aussi de tout notre groupe. Et c'est ça qui est très émouvant aussi, c'est que bah, cette confiance-là en les autres, en Pascal et en nous-mêmes, du coup, elle paye. Et donc je trouve que c'est un super joli texte et qui est vraiment à l'image de ce qu'on est en groupe et individuellement, donc je suis très content.
Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Valentin, mais c'est une écriture qui est l'inverse d'une écriture intrusive, parce que moi j'avais peut-être une réticence au départ à donner des détails trop intimes de ma vie, etc. Et en fait, ce qu'il a capté lui dans le texte final, c'est plutôt des énergies. Il a pris une histoire, mais il l'a transformée, masquée, maquillée, ou alors... mêlé à une autre histoire, à une histoire de Mathilde qui en fait lui a fait penser à un rêve de Valentin, etc. Et donc en fait, en tissant ce truc-là, ça fait qu'on n'est pas en train de restituer un peu notre intimité à un public au final, mais que le public va pouvoir lui capter des détails, qui voudra peut-être dire des choses pour lui, etc. Et je pense que c'est l'inverse d'une écriture qui se regarde elle-même, à mon avis. Et ce qui était dingue, par exemple, des détails qui revenaient énormément dans les rêves, c'est des contextes de guerre civile, des choses très violentes, des attentats, etc. Et il a su capter ce qui faisait des univers communs dans les rêves, quoi. Pour en tirer l'énergie de la pièce, pour en tirer notre centre dans la pièce, qui, bon, sans trop spoiler, parlera pas mal de cette inquiétude, de ces attentats, de cette violence subie, quoi.
De la fibre qui nous... de la fibre de notre génération, genre de l'inquiétude de notre génération, qui n'est pas l'inquiétude telle qu'elle est dite dans les conversations quotidiennes, mais l'inquiétude telle qu'elle nous apparaît dans les rêves la nuit, donc dans notre psyché. Donc c'est des choses dont on a conscience et qu'on a du mal à nommer.
Qui nous échappent complètement et qui sont révélées par les rêves aussi.
Le processus d'écriture avec Pascal, il a commencé par la table ronde. On était à 20. J'ai l'impression que le travail, c'était de plonger et tout échapperait. Quand tu auras perdu plein de choses, après, moi, je me suis posée et je me suis dit oh, « qu'est-ce que j'ai raconté ?» C'était plein de questions mélangées où j'avais à la fois honte, mais à la fois très heureuse. Et après, le fait qu'il nous a demandé de tout reformuler par écrit, je ne sais pas, donner l'impression que tu avais une main mise quand même sur la forme de ce qui t'échappait, des questions qu'il t'a posées. Et moi, par exemple, en relisant la matière première qui a servi à l'écriture du texte, moi, je suis étonnée à quel point on retrouve chez chacun, non pas leur vécu, enfin, non pas la personne, la persona, mais une sorte de forme... une sorte de, je ne sais pas, couleur de visage qu'il avait ce jour-là, qu'il a donné à ce moment-là. Et après, quand on a lu le texte final, voilà, là, on a donné tellement de matière, ça a été un processus tellement long que tu es très heureux de découvrir quelle fonction tu as dans le groupe, peu importe laquelle. Et c'est voilà, joyeux de voir des éclats de ce qu'on a donné.
On comprend que vous n'êtes pas du tout étranger au texte que vous avez reçu de Pascal Rambert. C'est un peu ce que tu voulais dire, quoi. Et du coup, est-ce que ça n'a pas quelque chose de vertigineux de se confronter longtemps, c'est-à-dire 3 ans de création, et de manière répétée à un texte qui vous parle aussi profondément ?
Bah justement, je crois qu'il y a beaucoup de secrets encore. Là on est en création, on a déjà commencé effectivement les répétitions avec Pascal, mais moi, il y a encore des passages de mon texte où je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire, ou alors c'est assez flou pour que je puisse, jusqu'à la dernière représentation, essayer de comprendre en direct devant le public et avec le reste de mes camarades, essayer de comprendre ce que je dis vraiment, parce qu'il a essayé de nous écrire ça dans un état où, un peu comme quand on raconte nos rêves, effectivement, on est encore un peu endormi, on est au réveil, on est pâteux comme ça, on essaie d'élucider un peu ce qui s'est passé, et donc c'est jamais encore très clair. Il y a des expressions malheureuses, il y a des choses qu'on dit qui sont très biscornues, etc. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'on s'ennuiera pas de ce texte, c'est qu'il y aura toujours des choses à élucider, même des choses entre nous, on sera toujours... La pièce est écrite pour qu'on recherche ce qu'on dit.
Souvent dans les textes de Pascal, il y a des monologues qui se succèdent, ce qui donne comme ça un peu un côté avalanche de la parole. Quand quelqu'un parle, il parle longtemps. Du coup, il y a vraiment un début, un milieu, une fin de cette prise de parole qui emmène quelque part. Et là, ce qui est très intéressant, et je trouve que c'est très proche de ce qu'on est en tant que groupe, les prises de parole sont plus courtes. Et du coup, le muscle du texte, c'est plus comment toutes nos paroles ensemble créent une image. Et donc, la question que vous posez, moi, je me dis oui, je m'y retrouve parce que, à la fois, je dois porter dans mon texte certains motifs où je reconnais intuitivement que c'est des motifs qu'il m'a attribués par rapport à ce que j'ai dit. Mais en même temps, ma prise de parole seule, elle ne raconte rien. Elle est tissée avec le reste. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que je sens que je dois amener certaines images sur scène, mais que je suis indissocié des autres. Et ça me plaît beaucoup, ouais.
Ce qui vous protège, c'est aussi le collectif un peu, finalement.
Oui, ça protège, mais ça renforce surtout. quand on arrive au plateau, justement, comme il n'y a pas ces longs tunnels de monologue comme on peut avoir dans Lac ou dans ce genre de texte de Rambert, là, en fait, on est fort d'être vingt et de porter une parole. C'est comme si, en fait, on était un seul corps au plateau, sauf qu'effectivement, il y en a vingt. Peut-être qu'on a chacun nos singularités, nos identités, mais l'identité qu'il y a dans Valentin, je sais aussi qu'elle est en moi. Enfin, il y a quelque chose, en fait, on est réellement liés. Et donc, ce sont des solitudes dans un collectif. Et je trouve qu'on est quand même fort de ça.
Je ne veux pas parler à la place de Pascal, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il recherche souvent dans ses pièces, comment le collectif doit, à un moment, parler de ce que c'est d'être ensemble et de la difficulté d'être ensemble. Et donc les pièces qui racontent la famille, les pièces qui racontent les groupes de théâtre, les groupes de jeunes, etc. Oui, ça rend fort de aussi pouvoir aborder ce sujet ensemble, je crois.
Du coup, la volonté de Pascal Rambert aussi est de montrer l'inconscient pendant la représentation. Comment cela se traduit-il concrètement au plateau ?
Bah, c'est là où on a beaucoup, beaucoup de chance quand même. C'est que y a plein de gens avec des métiers très différents qui travaillent avec nous là sur la création de la pièce et qui sont tous extrêmement talentueux. Il y a déjà le texte qui a été écrit par Pascal et puis ensuite il y a tous les éléments scénographiques de lumière, de costumes, les accessoires qui, encore une fois, je pense que tous les éléments mis ensemble, de la même manière que nous on crée cette parole collectivement, d'un coup dessine cet espace un peu flottant. Parce qu'il n'y a pas que la parole dite dans un espace vide, il y a énormément de choses qui se passent à l'endroit cognitif. Donc il y a différentes matières qui se mêlent comme ça, exactement comme dans les rêves en fait. Où d'un coup on pense, on dit je suis en train de parler avec quelqu'un, mais en fait c'est pas de la parole, c'est une autre matière, c'est une ambiance qui change, c'est un espace qui se modifie. Je pense que c'est comme ça que le projet a été pensé aussi, c'est que la partition elle est multiple, elle est à l'endroit de l'interprète, mais elle est aussi à des endroits techniques et visuels qui, entremêlés, bah, créent ce flottement, un peu cette métamorphose de l'espace tout le temps.
Je pense que c'est aussi, c'est exactement ce que tu viens de dire, hein, mais c'est de la sensation cognitive, comme tu disais. Je pense qu'au bout d'un moment, face à ça, il ne faut pas chercher à le lire ou à l'entendre, ou il faut juste se laisser aller, et par ces sensations, on reconnaît l'inconscient. On reconnaît, c'est-à-dire on le sent dans son corps. Plus que c'est nommé dans le texte ou c'est fait par un geste ou... Voilà.
Et du coup, sans trop spoiler, pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas vu le spectacle encore, est-ce que vous pouvez décrire un peu cette scénographie-là dont vous parlez ? Enfin, comment elle est concrètement ?
Il y a la décision de cette grande boîte blanche sur laquelle on va pouvoir projeter... soit nos corps, soit on va être très dessiné dessus, enfin voilà, je vais effectivement pas spoiler, mais on va être très visible en noir sur cette boîte blanche, très découpé, et il y aura donc les éclairages et le son qui vont créer sur cette boîte blanche un tas d'imaginaires, un peu comme si la boîte blanche c'était donc ce 9 mètres carrés qui revient souvent dans le texte, c'est-à-dire un 9 mètres carrés comme les 9 mètres carrés étudiants ou... où on vit, on est confiné, on fait la fête. C'est comme une espèce de boîte crânienne aussi, cet espace blanc, où vont se déposer tous les rêves, ou notre rêve commun, quoi. C'est comme si on vivait tous dans cette... ça peut être le 9 mètres carrés, mais en même temps, ça peut être mille autres choses, évidemment. Enfin voilà, c'est un espace de projection, beaucoup. Et blanc, une page blanche. Hein.
Dans une saison au paradis, Yves-Noël Génaud vous proposait de travailler sur des textes russes, Julie Declos de travailler sur Juste la fin du monde, et Gilles Blanchard sur Le Père humilié. Madeleine Louarn et Jean-François Auguste ont travaillé avec vous sur Opérette de Gombrowicz. Et quant à Fia Ménard, elle vous a beaucoup sollicité pour la création Friction-Fiction, tout comme Pascal Rambert pour Dreamers, mais pas du tout de la même manière. De quelle manière avez-vous appréhendé toutes ces propositions de création si différentes ? Et comment abordez-vous ces deux techniques de travail, être interprète d'un texte et l'autre un peu... acteur-créateur et actrice-créatrice.
Déjà, je pense que ce qui diffère entre tous ces projets, c'est les moments où ils sont arrivés dans nos vies et au moment de la formation. Le début de la saison à l'école qui devait se dérouler de janvier 2020 à mai 2020 a donc complètement été coupé en plein milieu. Mais ça intervenait au milieu de notre formation, où du coup les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. On n'avait pas appris plein de choses qu'on a appris aujourd'hui et qu'on a aussi appris du fait de ne pas avoir été ensemble pendant un moment à cause des différents confinements. Et puis on était séparés en petits groupes aussi pour ces spectacles. C'était, je crois, la première fois depuis... ça faisait un an et demi qu'on était à l'école, les 20 ensemble, qu'on pouvait travailler dans des plus petits groupes, ce qui change aussi quelque chose. Après les projets, déjà en eux-mêmes, il faudrait parler de chacun des projets, donc ça va être long, mais les quatre projets étaient extrêmement différents aussi. Parce que voilà, tous les artistes que vous avez cités, ils ont des méthodes de travail qui ne sont pas les mêmes, pas forcément exactement les mêmes objectifs, etc. Vraiment la différence entre ces projets-là, c'est qu'on n'est pas pris au même moment dans nos vies. Donc je ne sais pas si on travaille tout à fait de la même manière, je ne sais pas si on fait groupe tout à fait de la même manière, et si on est attiré par les mêmes modes d'expression aussi, par les mêmes, si on a la même poésie intérieure. Je sais, cette phrase qui tourne en boucle depuis mal, je n'osais pas la dire.
Oui, je suis en soi d'accord avec Valentin sur cette idée que ces projets ils sont venus nous recueillir à des différents moments. Et par exemple, la phrase comme acteur-créateur qui pourrait réveiller quelque chose en tant qu'imaginaire dans nos têtes enflammées en première année, ou je sais pas, c'était plus concret. Par exemple, moi j'étais dans le projet avec Yves Noël qui laisse énormément de liberté à des interprètes, même dans la façon d'aborder la matière. Très vite, justement pendant la saison à l'école, j'ai l'impression qu'on a effacé cette distinction de acteur-créateur ou performeur ou danseur. Enfin, la question, c'était plus comment tu te mets au travail dans un groupe et face à une matière. Enfin, la différence, ce serait la matière. Tu l'aborderais toujours d'une façon différente. D'être maniable, je sais pas, quelque chose comme ça. Et que, par exemple, Dreamers, qui arrive à la fin de notre formation, on a l'impression qu'il vient pile au croisement de tous nos outils, mais peut-être pas du tout. Peut-être juste on accepte qu'on n'ait plus besoin de tenir une des facettes de nous, mais plutôt se laisser complètement s'ouvrir et voir que en fait, tous les outils sont là sans qu'on les force à sortir.
Laurent Poitronneau a dit dans le dossier artistique que Pascal Rambert avait surtout écrit sur vos rêves nocturnes, mais aussi sur vos rêves d'avenir. Et, quels sont-ils aujourd'hui, après vos 3 années à l'école du TNB ?
Moi, c'est pas forcément un truc précis, mais c'est que je sais que là, il y a des rencontres qui se sont faites à l'école que je rêve de poursuivre dans un travail plus... plus global. Enfin, moi, un rêve, ce serait que dans 10 ans, il y ait une famille qui se soit vraiment créée et qui a commencé à se créer dans cette école et qui puisse un peu être comme un virus à travers la France et le monde. Non, mais j'en sais rien, c'est vraiment... Non, mais c'est un rêve, c'est un rêve. Et de pouvoir... Oui, c'est ça, une seconde pandémie, mais une pandémie artistique. Oui,
oui.
Non, mais voilà, de réussir à poursuivre ce qu'on a commencé à trouver. On le dit assez bien, Olga et Valentin l'ont dit, dans des univers très différents, dans des choses qui ont plutôt attrait à la performance, plutôt attrait à des grands textes classiques, etc. Et de faire communiquer ces univers-là. Et puis ensemble, quoi. Enfin, c'est un rêve pas très précis, quoi. Mais en tout cas, c'est...
Non mais je suis d'accord aussi, enfin, je dirais qu'effectivement moi, mon rêve c'est de pouvoir faire groupe jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est ça aussi ce que l'école m'aura appris vraiment. Et donc c'est vrai, le rêve je sais pas quelle forme il prend, est-ce que c'est, je pense, continuer effectivement à des projets avec des gens qu'on a rencontrés ici, ça me semble assez cohérent. Et puis aussi trouver d'autres familles ailleurs, voir comment on peut ensuite aller dans le monde, travailler avec d'autres gens, d'autres sensibilités, d'autres formations aussi, parce que je pense que c'est important d'aller voir d'autres personnes qui ont d'autres choses à apporter. Et puis aussi, encore une fois, là on répète un peu, mais aussi la multiplicité des matières qu'on a rencontrées ici, on nous a appris à s'affirmer dans différents modes d'expression. Donc maintenant on a tous ces outils qui sont complètement aussi... qui ont été tellement travaillés ici, ensemble, qui sont aussi peut-être passés dans le domaine de l'inconscient. Ces choses-là, maintenant, elles sont en dessous. Et c'est comment est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble, derrière, avec tous ces outils qu'on a à notre disposition, ces références communes. Ouais, le désir d'être avec les autres, qui, je pense, est déjà un bon premier pas pour sortir d'une école.
Oui, non, je ne vais pas répéter non plus. Hein. Je suis assez d'accord avec Romain et Valentin. Moi, c'est le même désir que j'ai. Et c'est aussi de me dire que dans 20 ans, on aura le même regard bienveillant qu'on a pu avoir pendant ces 3 ans. Moi, je pense que mon rêve, c'est de... Comme on a cette trace en nous de cette bienveillance, c'est de pouvoir la retrouver dans n'importe quel travail qu'on va faire ensemble ou pas, ou à travers la France, le monde, partout, quoi. Et c'est de me dire que dans 20 ans, je vais recroiser les mêmes regards et qu'on va pouvoir travailler avec les mêmes références communes, comme tu disais, et avec des nouvelles choses. Et, enfin, je sais pas, c'est d'avoir de prendre les rêves qu'on a en nous, de les partager avec ceux qui sont là et de le partager avec tout le monde. Et surtout de pouvoir les faire grandir grâce à ces regards bienveillants.
Bah, en fait, c'est assez marrant comme question. Parce qu'à chaque fois qu'on la pose maintenant, on a un peu un milligramme de culpabilité quand on n'a pas de projet. Je ne sais pas, mais effectivement, tout ce qu'ils ont relevé, c'est que la rupture entre l'école et la non-école, elle n'est pas tranchée. Ce n'est pas parce qu'on finit que quelque chose commence ou quelque chose finit. J'ai l'impression que le passage est le plus... Pour certains, les projets sont déjà en cours. Les rencontres avec certains, ils arrivent vers là, les derniers moments qu'on passe ensemble. J'ai l'impression que ce qui est vraiment rassurant, c'est de se dire que comme la vie, ça avance et que ça se fait.
Dreamers, c'est le dernier projet auquel vous participez au sein de l'école, du TNB. Et quel bilan vous faites de ces 3 années au sein de cette formation ? Même si vous avez un peu répondu.
Bon, moi, je sais pas comment parler de ça, mais c'est quelque chose... Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est bizarre à aborder, mais moi, je dirais que... Je sais pas comment dire, on s'est un peu débarrassé de la question de l'ego. Non, mais je sais pas... En fait, je sais pas comment en parler, mais c'est... Je me suis rendu compte aussi au cours de la formation que... Mais c'est tout... En fait, c'est le même sujet qui revient tout le temps, hein, pour moi. C'est d'être ensemble dans un groupe, de faire groupe. Ce groupe, il a été pensé d'une certaine manière par Arthur et Laurent, qui en parleront beaucoup mieux que nous. Mais nous, on l'a vécu pendant ces 3 ans. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de... Parce qu'être 20 personnes, c'est aussi c'est assez conséquent. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble. On a été très peu séparés. Donc ça fait aussi qu'on est beaucoup en observation. On est à la fois dans un poste d'observateur et dans un poste de tu fais des choses. Et ça nous a aussi beaucoup mis face à nous-mêmes, de pouvoir se voir, se regarder, échanger. On a eu la chance aussi d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir parler de ce qu'on crée ensemble, etc. Donc tout a été très pensé. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé pendant ces 3 ans. On a souvent eu le temps de pouvoir faire des bilans, de définir des objectifs ensemble. Et du coup, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'à un moment, on est tellement conscient de ce qu'on produit ensemble que ce qui prime, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est le texte qu'on est en train d'aborder. C'est l'univers qu'on essaie de créer tous ensemble. Et donc, d'une certaine manière, la question de l'individu, elle est complètement repensée, je trouve. Enfin, j'ai cette impression-là. En fait, c'est peut-être bizarre de répondre à cette question comme ça maintenant, parce que c'est pas ça ce que l'école nous a appris. L'école nous a appris beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, moi, je sens qu'au sortir de cette école, pour aller travailler dans des projets professionnels derrière, je me sens débarrassé de bagages un peu lourds qu'il peut y avoir peut-être chez des jeunes interprètes, qui sont des questions qui ne sont pas du tout fertiles, en fait, qui sont juste des résidus de comment on a pu être éduqué, quels que soient les milieux dans lesquels on a été éduqué, qui sont au fond je ne sais pas, l'envie de soit de plaire, soit l'envie de poursuivre un chemin qui, au fond, ne nous intéresse pas et on le sait très bien, ou une manière d'être qui nous va pas. Et, enfin, arrêter de se mentir aussi, je pense, d'être assez... d'être en accord avec soi. Parce qu'on a beaucoup évolué, les 20 ensemble, et on est témoin de ces évolutions-là. Et je pense que c'est ça qui est joli, c'est qu'aujourd'hui, on est solide à cet endroit-là.
En fait, comme tu dis, le faire groupe, le faire collectif, comme je reviens encore sur ce regard bienveillant, mais il nous a permis d'être honnêtes entre nous 20. Et c'est-à-dire que quand on voyait quelqu'un traverser plusieurs stages, on avait quand même tous un regard unique sur chacun. On le voyait travailler. Et en fait, de voir d'autres personnes se mettre au travail et être honnêtes avec eux-mêmes, à déconstruire aussi toutes ces questions sociales qu'on peut avoir ou qui nous encombrent, et de voir quelqu'un traverser ça, et de voir en fait 19 personnes traverser ça, et même plus, parce qu'on voit aussi Arthur et Laurent et tous les intervenants traverser ça avec nous. Enfin, moi, au bout d'un moment, la question de l'honnêteté avec moi-même et de me dire « Bon, là, Mathilde, tu te poses et tu te poses les bonnes questions et tu arrêtes aussi de te faire du mal avec ces mauvaises questions. » Et c'est une question d'ego. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que j'ai toujours mon ego, mais parce que c'est aussi ce qui me fait monter au plateau. Mais il est plus placé au même endroit. Et c'est ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Et moi, la question d'honnêteté, qui du coup traverse aussi comment on dit un texte, le plus simplement, et sans vouloir aussi juste lui donner de l'éclat ou quoi que ce soit. Non, en fait, juste dis-le. Et ça, c'est vraiment... quelque chose qui me traverse, mais qui du coup me traverse dans tout ce que je fais dans ma vie maintenant, quoi. C'est pas juste au plateau, mais c'est aussi dans mon rapport avec les uns, avec les autres. Et je pense que l'école, ça m'a permis aussi d'avoir une sorte de calme à cet endroit-là. De sois honnête et tu verras, et il arrivera, quoi, des choses. Et plein d'autres choses, évidemment, mais bon.
Moi, j'ai l'impression que peut-être une chose qu'on aura appris, c'est aussi comment se placer dans un projet. Parce qu'on a eu tellement de... Enfin, 20, c'est énorme, c'est un groupe énorme, et à la fois, donc il faut trouver sa place. Et en même temps, voilà, faut vraiment trouver la mesure de ce qu'on peut proposer, etc. Et j'ai l'impression que dans des projets après l'école, on aura peut-être plus une idée de comment se placer. Est-ce qu'on va énormément proposer, aller vachement de l'avant, ou est-ce qu'on verra que le reste du groupe propose énormément et justement se mettre un peu en retrait et trouver le bon moment où envoyer la bonne proposition. Parce qu'il n'y aura jamais une méthode qui marchera, je pense qu'on gagnera tous à ne pas appliquer une méthode, la même méthode sur chaque projet, que ce soit un projet plutôt chorégraphique ou plutôt performance, plutôt une adaptation d'un texte. Et avoir toujours une manière différente de se placer et d'évaluer dans les trois premiers jours, j'en sais rien, de la création, de se dire ok, voilà comment je peux intervenir dessus, voilà comment je peux apporter aux autres, et voilà comment je peux me mettre en retrait aussi. J'ai l'impression qu'on aura appris un truc comme ça aussi.
Pour rejoindre un peu ce que Mathilde et Romain ils disent, c'est pour moi une des choses avec lesquelles indéniablement on ressortira, c'est une sorte de rapport au travail qui était replacé, que ce soit par Laurent ou Arthur Musiciel, où le rapport au travail il va ensemble à côté d'une simple vie d'une personne, enfin de son vécu. Et deux mis ensemble, c'est une matière très sensible et très fragile et en même temps très solide. Parce que ça commence pas là où tu as commencé à faire du théâtre et ça finit pas là où tu sors de l'école. De la même manière, dans ça, s'inscrivaient les projets avec Madeleine Loirne qui n'ont jamais été faits. Du coup, c'était la première fois. Ça demandait beaucoup de travail, 3 ans d'accompagnement. Dreamer, son ami, 2 ans. L'école, ça a mis 3 ans, plus 1 an de concours. Oui, c'est une sorte de confiance dans les longs processus, dans les aventures entières, et pas juste le moment où tu viens au plateau à 20h30, le spectacle commence et ta tirade ouvre le spectacle. Voilà, et pour moi c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas apprendre toute seule.
Du coup, merci à vous quatre.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine !
Attends. Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane, et...
Tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.